Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 19 mars 2024. Nous sommes rendus à l'épisode 206 du podcast. Et aujourd'hui, premièrement, je vais revenir sur l'inflation au Canada. Donc, je vais revenir sur les données de l'IPC qui sont sorties ce matin. Ensuite, je vous parle du budget 2024-2025 du gouvernement du Québec qui a été annoncé la semaine dernière. Et je vais finir l'épisode avec des mauvaises habitudes de la part des investisseurs autonomes. En fait, j'ai vu ça soit dans des consultations privées, sur des groupes Facebook, des influenceurs qui partagent leurs positions sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Donc, je vais vous parler un peu de tout ça. Et je vais commencer tout de suite avec l'indice des prix à la consommation au Canada pour le mois de février. En fait, on a pu constater que l'IPC a augmenté de 2,8% en février. Donc, c'est une légère baisse par rapport à 2,9% pour le mois de janvier. Et 2,9%, comme je vous dis, c'est par rapport à février de l'année passée. Autrement dit, on regarde l'évolution des prix sur une base annuelle, mais si on regarde l'évolution des prix d'un mois à l'autre, c'est-à-dire de janvier 2024 à février 2024, là, on parle d'une augmentation de 0,3%. Si je prends ça et que je l'annualise en multipliant par 12, par les 12 mois de l'année, on aurait un taux d'inflation annuel de 3,6%. Donc, c'est sûr que le 2,8% sur une base annuelle paraît beaucoup mieux que la hausse mensuelle de 0,3%. Mais bref, par rapport aux données de 2023, il y a une amélioration du côté de l'inflation, mais les prix continuent de monter pareil. Puis si on regarde, là, une des composantes majeures là-dedans, c'est le prix de l'essence qui a grimpé de 4% d'un mois à l'autre. Et d'ailleurs, si on regarde le baril de pétrole brut WTI, il est repassé au-dessus de 80 US la semaine passée. Et aujourd'hui, le baril, il dépasse 83 US, ce qui est une bonne chose pour le secteur de l'énergie, donc les compagnies pétrolières, et donc par le fait même pour l'indice TSX, qui a une grosse pondération dans le secteur de l'énergie. Et les compagnies pétrolières canadiennes, il faut savoir qu'ils amènent énormément d'argent dans le pays. Donc ça, comme je vous dis, la hausse du pétrole brut, c'est une bonne chose pour l'économie. Par contre, je crois que le taux d'inflation pourrait remonter et je m'attends à ce que la composante de l'essence, ça soit un des éléments justement qui pousse l'IPC vers le haut. Et tant que l'inflation n'est pas considérée comme sous contrôle, je pense pas que la Banque du Canada va prendre le risque de réduire le taux directeur. Et pourquoi je dis le risque? Ben dites-vous que présentement, il y a un paquet de monde qui attend juste que les taux d'intérêt descendent pour faire un move, que ce soit acheter une maison, changer d'auto, acheter de l'équipement, de la machinerie là, pour les entreprises, etc. Donc, juste le fait de parler de baisse du taux directeur, déjà, le monde s'excite. Donc, c'est sûr que quand il va y avoir effectivement une baisse des taux d'intérêt au Canada, clairement, ça va amener une espèce de stimulation économique artificielle du fait que je pense que les gens vont rapidement retourner dans une mentalité de dépense au lieu d'épargner. Donc, c'est sûr que le plus loin on peut retarder la baisse du taux directeur au Canada, je pense que ça va être pour le mieux, même si à court terme, ça va amener des difficultés financières pour les ménages endettés. Mais bref, c'est un peu ça qui se passe du côté de l'inflation au Canada. Si on passe au budget du gouvernement du Québec, en fait, jeudi passé, le ministre des Finances du Québec a dévoilé le budget 2024-2025 et on l'a vu un peu partout dans tous les médias traditionnels, Journal de Montréal, La Presse, on parle d'un déficit record de 11 milliards de dollars pour la province de Québec. T'sais, même durant la pandémie de 2020-2021, on n'avait pas creusé un déficit aussi élevé que ça. Et depuis les dernières années, la dette publique, que ce soit au Canada ou au Québec, ça continue d'augmenter. Et avec la hausse des taux d'intérêt, Cette dette-là, elle coûte de plus en plus cher. On parle de 9,6 milliards de dollars en intérêts juste cette année. Et le gouvernement du Québec a comme pas le choix de réagir à ça parce que un déficit de 11 milliards de dollars, c'est majeur et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas soutenable dans le temps. Donc, si on veut même penser à retourner un jour à un équilibre budgétaire, le gouvernement n'a pas le choix de prendre des mesures. Et les mesures, évidemment, ça va soit toucher les dépenses gouvernementales ou les revenus que perçoit l'État. Donc, premièrement, le gouvernement Legault a décidé de mettre fin progressivement au programme Rouler Vert. Le programme Rouler Vert qui donnait des subventions de 7 000 $ pour l'achat d'un véhicule 100% électrique. Et là, à ce moment-là, avec la fin de ce programme-là qui va se faire de manière progressive en 2025, l'année prochaine, la subvention va diminuer à 4 000 $. Ensuite, en 2026, ça va être seulement 2 000 $. Et le programme Rouler Vert, il va terminer officiellement en 2027. Donc ça, c'est la première mesure que le gouvernement a décidé de couper. En fait, ça coûte de l'argent. Quand tu donnes des subventions, nécessairement, tu prends ça quelque part, cet argent-là, et tu la donnes pour donner des incitatifs. Sauf que là, comme je vous dis, pour les véhicules électriques, ça va se terminer en 2027. L'autre décision du gouvernement du Québec, ça a été aussi de couper 1 milliard de dollars dans l'aide aux entreprises. Donc ça se fait sous différentes formes. Premièrement, le gouvernement va retirer le crédit d'impôt qui vise à encourager l'embauche de personnes âgées. En fait, cette mesure-là permettait aux employeurs de recevoir un crédit d'impôt. On parlait d'un crédit d'impôt de 1 250 $ pour un travailleur âgé entre 60 et 64 ans. Et c'est un crédit d'impôt de 1 875 $ pour un travailleur de 65 ans et plus. Évidemment, l'objectif derrière ça, c'était d'encourager les compagnies à recruter des personnes âgées. Et là, ce crédit d'impôt-là va être retiré. Et deuxièmement, ils vont aussi réduire les crédits d'impôt pour les entreprises dans l'industrie des jeux vidéo et de la technologie de l'information. Et comme je vous dis, en retirant et en réduisant ces crédits d'impôt-là pour les entreprises, le gouvernement souhaite récupérer environ 1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même une mesure qui est considérable. Ensuite, un autre angle sur lequel le gouvernement veut se pencher, c'est la vente de véhicules usagés entre particuliers. Parce que si on regarde, là, en 2022, il y a eu 130 000 véhicules qui ont été vendus à 1 $. Donc ça, c'est la transaction officielle au niveau de la SAC. On s'entend que c'est pas la réalité. C'est une sous-déclaration du prix de vente. Et le but de faire ça, évidemment, c'est d'éviter de payer la taxe de vente du Québec au moment d'immatriculer le véhicule à la SAC. Par contre, il existe un guide d'évaluation pour les voitures de moins de 10 ans. Et à ce moment-là, la SAC se sert du prix indiqué là-dedans pour calculer la taxe de vente. Donc, c'est ce prix-là ou le prix de vente du véhicule dit par le vendeur, et il va prendre le plus cher entre les deux. Et en fait, la mesure du gouvernement, c'est de prolonger la liste du guide d'évaluation pour les véhicules d'occasion en incluant les véhicules de moins de 14 ans. Donc, on passe de véhicules de 10 ans et moins à 14 ans et moins. Et comme ça, ils anticipent d'aller chercher des revenus supplémentaires avec la taxe lors de la vente d'un véhicule d'occasion entre des particuliers. Et finalement, une autre mesure que le gouvernement provincial va mettre en place pour augmenter ses revenus, en fait, il va venir augmenter la taxe sur les produits du tabac, donc les cartons de cigarettes. Évidemment, ils vont coûter plus cher. Et encore une fois, de cette manière-là, il prévoit aller chercher des sommes supplémentaires. On parle d'un 300 millions supplémentaires au cours des 5 prochaines années. Donc tout ça, c'est vraiment fait dans l'idée de réduire les dépenses publiques, les dépenses gouvernementales, et en même temps, aller chercher davantage de revenus avec les taxes, tout ça. Mais là, avec le retrait de certaines subventions, de crédits d'impôt, avec les stratégies pour aller chercher plus de revenus avec les taxes, dans les médias, on commence déjà à parler d'une période d'austérité, comme avec le gouvernement Couillard de 2014 à 2018. Et quand on parle d'austérité, ça veut dire que l'État prend la décision de couper dans les dépenses publiques dans le but de réduire son déficit budgétaire. Et ça peut évidemment s'accompagner aussi d'une hausse des taux d'imposition ou encore des taxes. Et le concept derrière l'austérité, c'est que le gouvernement il cherche à améliorer sa situation financière comme un particulier ou une entreprise. Donc, la stratégie est la même. Il doit soit diminuer ses dépenses et en même temps tenter d'augmenter ses revenus. De mon côté, je suis de l'avis qu'il y a un certain rattrapage à faire, autant du côté du gouvernement du Québec que du côté du gouvernement fédéral. Je pense que dans tous les cas, le gouvernement a dépensé outre mesure. Il y a eu vraiment un relâchement au niveau des dépenses gouvernementales. Et là, on n'a comme pas le choix de venir couper dans toutes ces dépenses-là, les services publics. Je pense que c'est le début de ce processus-là. Je pense que dans les mois, trimestres, années à venir, on va poursuivre cette période de restriction au niveau des dépenses. Et de l'autre côté, il n'est pas impossible que le gouvernement trouve d'autres mécaniques pour aller chercher davantage de taxes. Et évidemment, les particuliers et les entreprises vont subir un peu ces changements-là du côté du gouvernement. Mais de mon côté, je pense que c'est une étape qui est nécessaire avec le déficit qu'on est en train de creuser, les intérêts qu'on paye sur cette dette-là. À un moment donné, il faut mettre une fin à ça parce que autrement, on continue de se financer avec la dette, on imprime de l'argent et par conséquent, ça fait une dévalorisation de notre monnaie. Et vous le savez, moins un dollar vaut cher, plus les prix augmentent. Et c'est ça qui découle justement le phénomène de l'inflation. Ce moment-là, on veut vraiment reprendre le contrôle de l'inflation puis garder notre pouvoir d'achat. On n'a comme pas le choix que la politique fiscale, donc la politique du gouvernement, soit dans la même direction que la politique monétaire, donc la Banque du Canada. Présentement, on est très restrictif du côté de la Banque du Canada en ayant augmenté les taux d'intérêt. Et du côté du gouvernement, avec ces dernières mesures-là, on commence à peine à venir appliquer une certaine restriction, à restreindre un peu les dépenses du gouvernement en retirant justement des crédits d'impôt, des subventions. Je pense que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps. Et je pense que c'est une étape qui est nécessaire. Je veux dire, un déficit de 11 milliards de dollars pour une province, c'est absolument énorme. Et comme je vous dis, la Banque du Canada travaille pour venir freiner l'économie, pour justement ralentir la hausse des prix. Il était temps que le gouvernement emboîte ses mesures dans la même direction. Donc, c'est mon opinion du côté du budget 2024-2025. Et je pense qu'au courant de l'année et de l'année suivante, on va continuer d'appliquer des mesures similaires et de retirer des crédits d'impôt, des subventions et tout ça. Sinon, du côté des marchés boursiers, présentement, bien, vous l'avez sûrement constaté, il y a un certain engouement vis-à-vis l'intelligence artificielle. Et je pense que c'est un peu ça qui amène la tendance haussière du moment. Mais pour moi, il y a quand même des similarités avec la bulle Internet qui s'est gonflée dans le milieu des années 90 et qui a finalement éclaté en 2000. Encore une fois, le raisonnement est similaire, c'est-à-dire que dans ce temps-là, il y avait de fortes anticipations vis-à-vis toutes les possibilités de l'Internet et ça a fait en sorte que le prix de certaines actions ont littéralement explosé à la hausse. Mais par contre, ensuite, on a pu voir que l'indice Nasdaq il a droppé de 75% de mars 2000 à octobre 2002. Et juste pour vous donner un exemple concret de la dot-com bubble, donc qui a éclaté en 2000, même 24 ans plus tard, les actions de l'entreprise Cisco n'ont toujours pas remonté à leur pic de l'année 2000. Donc, en mars 2000, Cisco, c'était la compagnie avec la plus grande capitalisation boursière. Cisco valait littéralement autour de 500 milliards de dollars. Et aujourd'hui, en 2024, son market cap est autour de 200 milliards de dollars. Donc, il faut comprendre que 25 ans plus tard, son market cap est en dessous de la moitié de ce que valait l'entreprise au pic des années 2000. Et pourtant, la thèse d'investissement initiale des investisseurs dans les années 1990, la thèse d'investissement était valide. C'est-à-dire que l'Internet a vraiment changé le monde et Cisco a vraiment été la compagnie qui a fourni la technologie pour répandre le réseau Internet avec des routers, des serveurs, des switches, tout l'équipement en fait de réseautique. Mais la problématique, ça a été que le marché a grandement surévalué le taux de croissance des revenus et des bénéfices. Et finalement, si tu as acheté au sommet de la bulle technologique, tes actions de Cisco, encore aujourd'hui, sont encore à perte. Et je pense qu'on pourrait voir quelque chose de similaire avec certaines actions dans le secteur technologique, mais particulièrement dans le secteur de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions que, justement, les possibilités de l'IA, ça vient en fait gonfler leur valeur. Et ça, je pense que c'est particulièrement du côté des startups qui se servent justement de l'intelligence artificielle pour attirer l'attention des investisseurs. Encore là, je suis quand même de l'avis que l'intelligence artificielle, c'est une avancée technologique qui est aussi importante, sinon plus, que l'Internet. Tu sais, le potentiel avec l'IA, il est énorme, mais c'est justement ça qui pousse les investisseurs à tenter de se positionner pour le futur. Et pour être certain de ne pas manquer le bateau, tu sais, la fear of missing out, le FOMO, je pense que ça amène beaucoup de monde à acheter, à prendre des positions, même s'ils le font à des prix qui me paraissent un peu démesurés. Encore là, je vous dis des prix démesurés, mais c'est ma perception. Puis je me suis longtemps trompé sur la valeur de la compagnie Nvidia, tu sais, que j'ai longtemps considéré comme surévaluée, c'est-à-dire que le prix de l'action de Nvidia par rapport à son bénéfice par action, ben ça me paraissait trop élevé. C'est encore aujourd'hui autour de 880 $ US, le prix de l'action correspond à 73 fois son bénéfice par action. À titre de comparaison, le multiple moyen de l'indice S&P 500, le multiple est autour de 23. On est à 73 du côté d'Nvidia. Autrement dit, il faut absolument que les profits de Nvidia continuent d'afficher une forte croissance parce que sinon, ben, l'action pourrait chuter rapidement lors de ses prochains résultats financiers. Et personnellement, moi, c'est juste que je suis pas capable d'acheter des parts d'une compagnie quand je vois un multiple qui est de plus de 70 fois ses bénéfices. Je suis pas capable de faire ce move-là. Et justement, la plupart du temps, ben, ça me permet de trouver des deals puis d'éviter des actions surévaluées. Mais d'autres fois, ben, je passe à côté d'entreprises qui connaissent une croissance incroyable, comme par exemple Nvidia. J'ai littéralement passé à côté de ce titre-là du fait qu'il m'a toujours paru surévalué par rapport à son multiple des bénéfices, par rapport à sa croissance que j'anticipais. Et récemment, on parle des sept magnifiques qui fait référence aux sept grandes compagnies qui poussent les indices boursiers américains à la hausse. On parle évidemment de Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta, Nvidia et Tesla. Mais là, déjà, là, parmi les sept, il y a l'action de Tesla qui a droppé d'environ 40% en 6 mois. Faudrait peut-être déjà plus dire les six magnifiques ou peut-être remplacer Tesla par Netflix. Mais dans tous les cas, ces affaires-là de sept magnifiques ou dans le temps, c'était l'acronyme FANG, là, F-A-N-G, pour Facebook, Amazon, Netflix et Google. Ça, cet acronyme-là, il a été créé en 2013. Après ça, en 2017, ils ont rajouté Apple, donc FANG, mais avec deux A. Mais tu sais, le concept regrouper des actions ensemble puis de leur donner un nom, ça fait longtemps que ça existe sur les marchés boursiers et c'est souvent justement les gros titres du moment qui attirent l'attention des investisseurs autonomes et c'est ça qui les pousse souvent à acheter des actions à des prix surévalués, c'est-à-dire au sommet de l'euphorie vis-à-vis ces titres-là. Un exemple que je peux vous donner, de 1960 à 1970, on parlait des Nifty 50, qui est en fait une cinquantaine d'actions qui étaient cotées sur la bourse de New York, et on les considérait toutes comme des blue chips, des actions que tu achètes et que tu gardes pour le long terme. Puis tu sais, les Nifty 50 ils ont offert des très bons rendements, juste à temps qu'il y ait le marché baissier de 1973-1974. Donc oui, les 7 magnifiques, c'est des actions solides, c'est des titres qui ont fait leur preuve, mais ça ne t'immunise pas contre une baisse, contre une correction, contre un marché baissier. Et des titres comme ça, que ce soit les Nifty 50, le FANG ou présentement les Magnificent 7, c'est bon jusqu'à temps que ça casse. Et finalement, les noms, les gros titres, au fil du temps, ils évoluent puis ils changent. Donc, c'est pas parce qu'ils font partie d'un regroupement que ça vous garantit un succès au niveau de vos investissements. Et pour finir l'épisode, je vais vous parler d'une erreur que je vois souvent quand je parle à d'autres investisseurs autonomes. Et je dis erreur, mais c'est plus ou moins ça. En fait, c'est que pour beaucoup d'investisseurs, leur portefeuille autogéré, il y a comme une trop grande exposition au marché canadien, dans le sens que la pondération dans les actions canadiennes, des fois ça dépasse 50, 60, 70% de leur portefeuille. Et c'est un phénomène qui est assez répandu. Au fait, la majorité des investisseurs, ils ont tendance à investir davantage dans des compagnies de leur propre pays. Et c'est un biais cognitif, dans le sens que le monde ont l'impression de mieux comprendre les compagnies parce qu'ils les voient plus souvent, ils ont soit plus confiance, par exemple avec les banques canadiennes, puis il y a aussi du monde qui ne veut juste pas convertir le dollar en dollar US, ils ne veulent pas se compliquer la vie avec la conversion de devises. Mais tu sais, cette surpondération-là de la part des investisseurs autonomes, c'est premièrement, ça donne un manque de diversification parce que tu es beaucoup concentré sur le marché canadien. Et en plus, cette surpondération-là, c'est sans compter les employés qui cotisent à un programme d'achat d'actions avec leur employeur. Par exemple, les employés de CAE, la compagnie montréalaise qui vend des simulateurs de vol, ben les employés peuvent mettre une partie de leur salaire en actions CAE et leur employeur cotise également avec eux. Donc, c'est un programme qui peut être très avantageux, mais au bout d'un certain temps, un employé de CAE, il peut se retrouver avec une grande position qui vient un peu débalancer la diversification de ses placements. Dans le sens que, comme je vous dis, ce type de programme-là, ça peut être très avantageux, mais des fois, ça peut être catastrophique aussi, du style, ben tu perds ton emploi et en même temps, il y a une grande partie de tes placements qui plante parce que ton employeur est en difficulté financière. Et c'est quelque chose qui s'est déjà vu. Là. Si on prend l'exemple classique de Nortel qui a fait faillite, bien évidemment, il y a des employés qui ont perdu leur job. Et ces employés-là, ils avaient également cotisé à un programme qui achetait des actions de Nortel. Donc, en même temps de perdre leur emploi, ils ont également perdu une grande partie de leur placement qui sont tombés à zéro. Donc, comme je vous dis, cette surpondération-là sur le marché canadien ou avec son employeur, c'est quelque chose qui est assez répandu. Et une autre mauvaise habitude de la part des investisseurs autonomes, c'est la tendance à focusser sur le rendement des dividendes. Tu sais, au lieu de regarder le rendement global, ben, ils se concentrent sur lequel qui donne le plus haut taux de rendement de dividendes. Par exemple, en ce moment, il y a l'action BCE, qui est la compagnie de télécommunications Bell, et l'action, présentement, elle affiche un yield de dividendes de 8,5%. Donc, c'est un rendement qui est très élevé. Par contre, il faut prendre en considération le fait que beaucoup de compagnies, ben, maintenant, viennent suspendre ou coupent de moitié leur versement de dividendes. T'sais, on a pu le voir avec Intel, Walgreens, Disney en 2020, etc. C'est quelque chose de courant. Donc, il faut prendre le temps d'évaluer si le dividende, est-ce qu'il est soutenable ou non. T'sais, on n'oublie pas que les dividendes, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise qui est distribuée aux actionnaires. Donc, si on regarde BCE, on peut voir que le ratio de distribution il est de 169%. Autrement dit, Bell remet aux actionnaires 1,7 fois les profits qu'elle génère. Donc, vous pouvez comprendre que présentement, BCE utilise soit des réserves de cash ou soit de la dette pour continuer de payer leur dividende. Et ça, évidemment, c'est pas l'idéal parce que selon sa situation financière actuelle, ben, le versement de dividendes n'est pas soutenable dans le temps. En d'autres mots, c'est pas impossible que BCE doive réduire ou suspendre la distribution des dividendes aux actionnaires. Et si jamais il y a une annonce comme ça, ben, le prix de l'action va chuter parce qu'un titre comme Bell, comme BCE, t'achètes ça comme un titre de revenu, là, dans le sens que tu la jettes pour ses dividendes. Bell, c'est clairement pas une action de croissance, dans le sens que tu t'attends pas à ce que son prix double ou triple dans les prochaines années. Donc, c'est sûr que si BCE vient réduire ou couper son dividende, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'entreprise. Mais tout ça pour dire que c'est important de ne pas juste se fier sur le rendement des dividendes. Il faut prendre le temps d'analyser la picture financière de l'entreprise puis d'évaluer le risque que le dividende soit réduit ou suspendu. C'est super excitant d'avoir un titre qui verse du 6, 7, 8%, mais plus souvent qu'autrement, c'est un rendement du dividende qui n'est pas soutenable dans le temps et ça vient un peu biaiser votre thèse d'investissement, c'est-à-dire que faut prendre le temps d'observer d'autres données, voir si la situation financière est appropriée, le niveau d'endettement, la croissance, la marge de profit, etc. Et comme je vous dis, le ratio de distribution qui vous permet de savoir quel pourcentage des bénéfices sont remis aux actionnaires. Et là, comme je vous dis, quand on est au-dessus de 100%, clairement, l'entreprise ne génère pas assez pour remettre des dividendes à ses actionnaires. Donc là, on peut penser à BCE, mais il y a bien d'autres entreprises qui se trouvent dans une situation similaire. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Encore une fois, j'espère que vous appréciez le contenu. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie énormément pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.